Entretien par téléphone avec Sophie Gigot, fondatrice de Migration 59, collectif d'hébergement citoyen sur la métropole lilloise et dans toute la région.
C'est un collectif qui existe depuis 2018 en réaction à la destruction du grand campement de ce qu'on a appelé la jungle en 2016, début 2017, et qui essaye de résister à la politique très très violente qui est menée à Calais à l'égard des exilés. L'idée du collectif, c'était de proposer aux personnes qui ne sont pas d'accord avec la politique très violente qui est menée à Calais, de leur proposer un moyen d'action qui est à la portée de tous. Et qui soit également non violent, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est résister de façon non violente à cette violence d'État. Donc en quoi ça consiste? C'est très simple, on se réunit alors concrètement par des réunions en chair et en os pour ceux qui vivent à proximité, puisqu'on a essaimé dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Et autrement, on communique par une plateforme, un réseau social et également par mail pour ceux qui sont réticents à un réseau social. Et donc, on organise tous les week-ends l'accueil des exilés qui vivent dehors à Calais dans des familles. Donc, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose d'organiser une équipe de chauffeurs qui viennent avec nous le samedi matin pour récupérer les invités du week-end à Calais, d'autres chauffeurs qui vont les ramener à Calais le lundi, et des familles, des personnes qui vont accepter de les accueillir pendant 48 heures.
Accueillir quelqu'un, héberger quelqu'un pendant 48 heures, ça peut paraître quelque chose de banal. On accueille toutes et tous de la famille, des amis régulièrement, mais pour ces personnes-là, c'est très très important.
C'est très très important et rassurez-vous, c'est beaucoup moins fatigant que d'accueillir sa belle-mère. On a affaire à des personnes qui sont épuisées. Il faut savoir que les exilés, ils dorment en moyenne 3 heures d'affilée. Ils sont sans cesse interrompus par les opérations policières, par tout ce qui peut intervenir quand on vit dehors. Et donc, ils ont vraiment besoin, pour tenir le coup physiquement, de dormir, de se reposer, de se doucher, de laver leurs vêtements. Donc c'est aussi simple que ça. Et puis du côté des accueillants, c'est une expérience qui permet aussi d'apporter de la considération, du respect, de la dignité dans le traitement de ces personnes, puisque là ils sont plus traités ni comme des victimes, ni comme des clandestins, mais comme des invités. Et ça, c'est très important de pouvoir pratiquer cette hospitalité.
Un système aussi qui permet qu'il y ait une rencontre, que les gens se parlent et se rencontrent, que les exilés ne soient plus ces personnes, ces ombres qu'on voit parfois à la télévision.
Oui, c'est vrai que malheureusement, on a le sentiment d'une masse indistincte, les migrants, d'ailleurs on ne sait même pas quel syntagme utiliser pour les qualifier. Là, on rencontre Bachir, on rencontre Aftar, on rencontre des personnes qui ont aussi quelque chose à partager avec nous, qui ont quelque chose à dire. Pas seulement le récit des multiples persécutions ou récits de guerre qu'ils ont fui, mais aussi des récits très positifs de qui ils sont, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie de partager. Et donc, bien qu'ils arrivent dans les familles en étant très fatigués, il y a aussi cette dimension de partage qui fait que l'accueil reste possible et désirable, pas seulement une contrainte avec la fatigue que ça représente d'accueillir ses amis, sa famille ou qui que ce soit, c'est aussi ce moment d'échange humain et culturel qui est tout à fait appréciable. Et parfois très cocasse parce que la barrière de la langue existant dans certaines situations, ça dépend des exilés et de leur bagage linguistique, on se retrouve à élaborer des moyens de communication qui amènent à des situations très drôles. Donc bien sûr que tous les accueillants ont leur trésor de mémoire, de bons souvenirs, d'anecdotes qu'ils ont envie de raconter.
Alors on sait que l'État, les relations entre l'État et les assos de solidarité est parfois compliquées. Il y a eu des fois où les assos de soutien humanitaire étaient mis en porte-à-faux, attaqués devant les tribunaux. Est-ce que vous, votre action, elle est aussi attaquée ou on vous laisse un petit peu tranquille?
Alors, compliqué est un euphémisme. Il y a très clairement, mais ça fait partie de cette violence d'État que j'évoquais, hein, une entrave au droit de manière générale, en fait, à Calais. Donc, c'est toutes les limites de la justice et de la Constitution. C'est quand l'État et ses institutions ne respectent pas la loi, Il n'y a personne pour les réprimander, si vous voulez. Donc, on se retrouve dans une impasse à Calais avec effectivement des gouvernants qui, que ce soit au niveau préfectoral ou municipal, ne respectent pas la Constitution. Donc, c'est dénoncé, comme vous le savez, par la Cour européenne des droits de l'homme, par des associations indépendantes. Et que fait l'État ? Rien, si ce n'est parfois payer des amendes pour mauvaise conduite. Mais voilà. Donc, c'est très difficile pour les associations sur place qui aident à la survie des exilés. En ce qui nous concerne, nous échappons fort heureusement à cela. D'abord, je rappelle que depuis 2012, l'aide des exilés, quand il s'agit d'hébergement, de transport dans les limites du territoire, de soins, n'est plus considérée comme un délit. Hein. Ça a été dépénalisé en 2012, donc on peut le faire dans un cadre parfaitement légal, et c'est évidemment ce qu'on fait. Et de fait, ça, je pense que c'est aussi une façon de couper un petit peu avec la réalité de Calais, de permettre à ces personnes d'être accueillies, non pas dans des centres d'accueil, vous savez, les CAES, dans lesquelles les autorités municipales ou préfectorales essayent de les disperser, parce que ces centres-là, ils servent à quoi ? Ils servent à inciter les exilés à demander l'asile en France, tout en sachant que, à cause de la politique administrative des quotas, cet asile, ils ne l'auront pas. Alors que quand ils viennent dans les familles, quand ils sont accueillis sur le littoral, dans le Douaisis, dans le Valenciennois, sur la métropole lilloise, dans le coin d'Arras, etc., ben là, ils sont accueillis sans qu'on leur impose aucune contrainte. Ils sont accueillis de façon totalement libre, sans contrepartie. Donc je pense que ça, c'est très très important de pouvoir respecter leur autonomie et uniquement les mettre à l'abri sans exiger quoi que ce soit d'eux et certainement pas les contraindre à demander un asile qu'ils n'auront pas.
Alors, votre association organise mardi 9 novembre à 18h à Lille, au Café Citoyen, une réunion publique. Vous appelez à mobilisation, c'est une réaction à un nouveau rapport, hein, celui de Human Rights Watch. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors ce rapport, il est pas nouveau et en même temps, il est terrible. Donc, je rappelle que Human Rights Watch est une ONG indépendante qui collecte un certain nombre de faits très éloquents sur la violence que subissent les exilés à Calais et toutes les infractions au droit, c'est-à-dire des opérations policières qui consistent à rafler les couvertures, les chaussures des exilés qui se retrouvent pieds nus dans la boue, qui consistent à lacérer les tentes. Dans une démocratie, ça, c'est choquant, c'est scandaleux, c'est inquiétant. Donc notre réaction, c'est une réaction citoyenne. C'est pour ça que on n'est pas une association, on est un collectif citoyen, j'insiste, de personnes qui sont tout simplement attachées au droit et à la démocratie. Et donc c'est vrai que ce rapport qui s'intitule « Infliger la détresse » et qui explique comment la politique de l'État français consiste à infliger délibérément la détresse pour dissuader ces personnes de rester à Calais. C'est une réaction à ce rapport qui nous a profondément révoltés et mis en colère. Et donc, notre manière d'apporter une contribution ou une réponse, à la fois très simple et encore une fois non violente, et dans cette optique de défense de la démocratie, c'est d'accueillir. À cela s'ajoute tout simplement la météo. Il devient maintenant particulièrement difficile de dormir dehors. Et donc, on essaye de remobiliser le plus d'énergie possible, de fédérer tous ceux qui sont opposés à ce qui se passe à Calais actuellement et de se réunir autour de cette solution très positive qu'est l'accueil. Parce qu'on dit toujours, bah, mais il n'y a pas de solution, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il y a de l'appel d'air, il y a ceci, il y a cela. En réalité, tout ça est complètement faux. Hein, c'est un mensonge idéologique. On sait très bien que l'exil, c'est un arrachement, c'est une mutilation, que très peu de personnes sont capables de s'exiler, même si les situations qu'elles quittent sont désastreuses. Donc il y a une constante dans le solde migratoire en Union européenne, il faut regarder les chiffres. Il ne faut pas écouter les discours, il faut regarder les chiffres. Et là, on voit la réalité de la chose. Et donc là, actuellement, il y a plusieurs centaines, presque 1500 personnes qui sont bloquées à Calais par cette absurdité que sont les accords du Touquet.
En ce moment, il y a une grève de la faim qui a été entamée par, alors je crois que c'est maintenant c'est deux personnes qui suivent cette grève de la faim. Votre initiative, il y a d'autres initiatives, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une présidentielle au printemps prochain en France, et du coup ça redevient un sujet important au cœur du débat public.
Malheureusement non, c'est-à-dire que dans le débat public, la question qui se pose, c'est la question de la sécurisation des frontières. La question de l'accueil n'est jamais posée, c'est-à-dire que on ferme les frontières pour des raisons qui sont supposées être des raisons électoralistes, pour faire plaisir à ces Français qui ne voudraient pas vivre avec des étrangers, et on oublie cet immense, ce grand nombre de Français dont je fais partie, et dont tous les accueillants font partie à Bayonne, à Ouistreham, à Paris, à Besançon, à Metz, dans la Roya, etc., qui accueillent les exilés parce qu'ils souhaitent vivre avec eux. Et donc cette question de l'accueil, elle est totalement escamotée du débat public, parce que un certain nombre de mouvements politiques n'ont pas intérêt à ce qu'on entende la voix de ceux qui souhaitent accueillir des migrants et vivre avec eux.
Dernière question, si on veut accueillir des migrants, des exilés, des personnes exilées chez soi, comment on peut faire? Comment on s'y prend alors?
Alors c'est très simple, vous pouvez contacter notre équipe qui se fera une joie d'ensuite vous répondre par écrit et puis surtout de vive voix, parce que quand on accueille, on fait aussi communauté, hein, on devient une grande famille, un grand réseau amical. Donc on a une plateforme Facebook, Migration 59, et puis on a une adresse mail, migration59@hotmail.com.
Et puis vous pouvez rencontrer les membres de ce collectif Migration 59 pas plus tard que ce soir à 18h. Ça se passe au Café Citoyen à Lille, 7 place du Vieux Marché aux Chevaux, métro République, pour une réunion d'information. On s'excuse au passage pour celles et ceux qui nous écoutent le soir, pour qui ce sera un peu trop tard. C'était un entretien avec Sophie Gigot, fondatrice de Migration 59, collectif d'hébergement citoyen. Un entretien réalisé par téléphone hier après-midi. Wouldn't that be something? Wouldn't that be something?